à main nue, de pied ferme, je vous serre les pouces, et mes deux babouches dans la gueule des bouches. Companeros d'un sens, excusez mon imprudence pour ce mot de circonstance, telle une clémence pour notre résistance face à l'arrogance de ces sbires en faïence et leur loi de finance. Par ce temps d'orage, nous nous disons courage et contre leur loi notre rage. Voilà notre message. De pied ferme, droit devant, je vous serre les pouces. Non, je m'excuse. Je vous livre avec crampes et contre bouche nos pompes. Ah, que peuvent nos mocassins contre ces assassins, c'est notre résonance, écho de résistance. Contre l'axe du mal et sa persistance, contre ces criminels, assassins d'enfants, contre leurs milices et leurs complices. Face à ces connards, rose blanche à la main, levons étendard et faisons rempart avec nos mocassins, chaussures d'indiens, faisant résonance, écho de résistance.
Je ne sais pas si vous allez prendre. Alors bon, ce soir c'est organisé aussi par le collectif Isidore et Citoyen. Tu veux dire un mot, Josiane?
Voilà. Allez. Et après.
Je serai plus très brève. Simplement pour dire à ceux qui ne connaissent pas notre association que nous sommes une association locale à Strasbourg, donc qui lutte pour le respect du droit international et la défense du peuple palestinien. Donc si certains parmi vous sont intéressés, soit pour recevoir des informations ou nous rejoindre, vous pouvez vous adresser aux personnes qui sont à la table. Et je ne vais pas en dire plus, je vais mettre la parole à Michel.
Merci et merci surtout au collectif, à la PNF, à l'UGFP de permettre cette soirée dans le cadre d'une tournée dans laquelle justement la PNF et la UGFP jouent un rôle important. Certes, c'est pour la promotion. Pour la promotion d'un livre qui n'est même pas encore sorti, je crois qu'il sort demain.
Le 14.
Qui est fait des chroniques que j'ai écrites tout au long de l'existence courte de Ciné Hebdo, et dans laquelle j'ai essayé de donner mon humeur, parfois mes amis, sur des épisodes divers du conflit en Palestine, mais aussi des incidents dans la société israélienne, dans la politique israélienne. Alors, bonsoir Strasbourg, comme beaucoup le savent, je ne suis pas totalement étranger dans cette ville, puisque j'y ai passé les 15 premières années de ma vie. Et je voudrais consacrer un peu mes propos ce soir à un grand Strasbourgeois, qui était aussi mon père, le grand rabbin Max Warchavski, et plus particulièrement un héritage que j'ai eu la chance de recevoir de lui et de ma mère. Il me disait, je l'ai souvent cité, vous le connaissez bien, où que tu sois, ne ferme pas les yeux à la souffrance de l'autre, car nous aussi nous avons été esclaves en Égypte, et récemment encore, avons payé le prix cher, extrêmement cher, de l'indifférence de beaucoup, de ceux au cœur desquels nous vivions. En ce sens, je dirais que mon engagement politique s'enracine certainement dans des valeurs universelles, le droit, la justice, l'égalité, mais je dirais aussi et avant tout peut-être dans l'histoire de mon peuple. On m'a demandé de parler de la situation d'Israël-Palestine Et quand Jean-Claude, en correspondance que j'ai eue avec lui, m'a demandé de résumer le contenu de ma conférence pour lui donner un titre, faire des tracts, des affiches et des communiqués de presse, j'ai dit « au bord de l'abîme ». Au bord de l'abîme, et ça va être un peu l'objet de ma conférence, mon introduction, parce que je voudrais quand même consacrer l'essentiel de cette soirée à un échange. Et c'est dire, ça vous semblera peut-être paradoxal, Israël va mal, Israël va très mal. C'est un peu culotté en tant qu'Israélien de dire Israël va mal quand on sait comment vont les Palestiniens, qui vont vraiment très très mal. Mais je voudrais prendre cet angle quand même pour essayer de donner un éclairage sur la situation qui concerne effectivement directement, pas indirectement, mais directement les Palestiniens. Israël va très mal, et ce n'est pas moi qui le dis. C'est des personnalités, des journalistes, des politiciens qui viennent du cœur même de l'establishment. Ce n'est pas de la marge gauchiste dissidente où je me situe qu'on entend ce bilan. C'est Abraham Hope, l'ancien président du Parlement, l'ancien président de l'Agence juive et du mouvement sioniste mondial. C'est Gideon Levy, qui non seulement est un grand journaliste israélien au quotidien Haaretz, mais aussi a été longtemps le porte-parole de Shimon Peres. C'est le président de l'Association pour les civils, l'Association civique pour les droits de l'homme, ACRI, qui est la plus grande. Ce n'est pas une association gauchiste, ce n'est même pas Bézérim, c'est beaucoup plus, c'est une association dont le conseil d'administration est fait le juge, d'anciens juges à la Cour suprême, d'anciens ministres de la justice, donc plutôt establishment que marge gauchiste. C'est Yossi Sarin qui a été longtemps ministre, député, ministre, et qui aujourd'hui, en tant que journaliste indépendant, donc, chroniqueur dans le quotidien Haaretz, nous donne dans ses billets, que j'adore d'abord par la beauté du style, par la beauté de son écriture, mais donne un regard, nous fait partager un regard extrêmement critique, voire parfois désespéré. Et c'est là peut-être que c'est intéressant. Les gens comme Abraham Bourg, comme Yossi Sarin, qui ont été les princes d'Israël, qui ont été la troisième génération des dirigeants, qui aujourd'hui devraient être au pouvoir, devraient être, tout le monde attendait Abraham Bourg d'être le premier ministre, mais aussi Sarin a été ministre et c'est une personne sur qui il fallait compter. Et bien d'autres encore, Yossi Begin, le principal négociateur d'Oslo, aussi ancien ministre, je ne sais même pas où il est, il n'est plus dans le pays. Toute cette génération de dirigeants, les princes, tous, ou presque tous, fils de des pères fondateurs d'Israël, se sont retirés de la Belgique. Se sont retirés, certains d'entre vous se souviennent peut-être d'un article qui avait été publié dans Le Monde, il y a tout cela plus de 5 ans, par ce même Abraham Bourg, où il annonçait, ça s'appelait « La révolution sioniste est morte », et où il annonçait pourquoi il quittait le pays. Je ne sais pas si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose, mais je suis un de ceux qui l'ont convaincu de revenir, qui quittait le pays en disant « il n'y a plus rien à sauver ici ». Donc c'est eux qui disent qu'il serait pas très mal. Ceux-là même qui auraient dû être aujourd'hui les dirigeants du pays, qui ont démissionné, qui ont cessé d'y croire, et qui ont un regard extrêmement pessimiste sur la réalité israélienne. C'est eux qui parlent d'État fasciste. Tout récemment, un interview de ce même Abraham Bourg dans la radio israélienne.
Qu'est-ce
non pas par patriotisme, mais par respect pour les concepts, j'ai longtemps hésité, et je me suis souvent opposé même à ceux qui utilisaient le concept de fascisme pour définir le régime israélien. Un régime colonial, un régime militariste, un régime de guerre, dirigé par des criminels de guerre. Les fascistes, ça répond à une certaine définition scientifique à mes yeux, à laquelle le régime et la politique israélienne ne répondaient pas. Jusque récemment. Jusque récemment, je pense qu'il s'agit, alors, fascisme, selon les définitions qu'on lui donne, mais qu'il est aujourd'hui pertinent de parler d'une fascisation du régime. Et donc, d'un saut qualitatif de la nature du régime et de la politique israélienne. À trois niveaux. Je dirais, premier niveau, politique et législatif. Deuxièmement, le discours dominant. Et troisièmement, l'ambiance. Alors, commençons par la dimension directement politique. Une série de lois racistes ont été ou vont prochainement être votées par le Parlement. J'en mentionnerai deux, mais il y en a beaucoup plus. Ceux qui arriveront à trouver les chroniques dans Ciné Hebdo. On le lire, j'en ai parlé tout au long de mon écriture. Par exemple, une loi qui interdit la réunification familiale, ou qui met devant un citoyen ou une citoyenne israélienne non juive, qui veut épouser, qui tombe amoureux ou amoureuse, de quelqu'un qui n'est pas israélien. Arriver dans les meilleures familles, y compris chez des juifs, mais alors que le citoyen juif, évidemment, pourra vivre avec sa femme ou son mari et ses enfants dans le pays, un citoyen, je ne dis pas un travailleur immigré, un citoyen a le droit d'épouser qui il veut et de vivre avec qui il veut dans son pays. Si les citoyens arabes, il devra choisir entre son amour ou sa patrie. Parce que son époux ou son épouse n'aura aucune chance d'obtenir la réunification familiale. Donc, un permis de résidence dans le pays. C'est une loi nouvelle. Autrefois, c'était difficile, mais à la fin, on l'obtenait. Aujourd'hui, c'est tout simplement impossible. Et je connais personnellement une bonne demi-douzaine de familles, en général c'est la femme qui est israélienne, arabe israélienne, palestinienne d'Israël, qui a dû émigrer pour vivre avec sa famille. Parce que sa famille n'avait aucune chance et aucune possibilité de venir, même en tant qu'étranger, même en tant que résident, pas en tant que citoyen, que résident, avoir un permis de résidence, ne serait-ce provisoire, dans le pays. C'est une loi parmi d'autres. Une autre, par exemple, la discrimination dans le logement entre juifs et non-juifs, qui a toujours existé, mais maintenant dans la loi. Il est légal, dans un quartier ou dans une certaine ville, qui répondent à des critères que je n'ai pas le temps d'exposer ici, d'exclure de ce quartier, de ce nouveau village, de ce nouveau lotissement, des non-juifs, pour maintenir une homogénéité culturelle, les arguments, il y en a plein. À l'époque, ce n'était pas une loi, c'était une pratique discriminatoire, la Cour suprême était intervenue et elle a dit ça, on ne peut pas. Israël se veut certes un État juif, mais un État juif et démocratique. Il faut un peu de démocratie quand même. Maintenant, Israël ne se revendique pas, je reviens tout de suite, de l'État démocratique. Israël est un État juif, point. Un autre exemple, le devoir d'allégeance, faire serment d'allégeance pour, par exemple, les époux non juifs d'un citoyen israélien juif ou d'un citoyen israélien, pour pouvoir éventuellement devenir résident, pas citoyen, résident du pays, il devra faire prouver son allégeance au pays. Mais dès lors qu'on ouvre, c'est là que le fascisme, l'allégeance à l'État, ça c'est un concept fasciste, clairement fasciste. Dès lors que l'allégeance, on se sert de cet outil, demain il faudra serment d'allégeance, pas simplement pour les étrangers qui veulent venir ou vivre en Israël, mais pour des citoyens israéliens pour être fonctionnaires. On ouvre ici une porte, un abîme sans fond, en conditionnant des droits par l'allégeance. L'allégeance est le concept fasciste par excellence. Alors ça c'est au niveau des lois. Au niveau des lois encore, ou plutôt du législatif, la commission, le Parlement vient de décider qu'il allait enquêter. Une commission allait être mise en place pour enquêter sur toute une série d'ONG, d'associations, y compris des associations aussi respectables que l'Association pour les droits civiques, et le Bézélène, et le Comité contre la torture, et les médecins pour les droits de l'homme, et le Centre d'information alternative, d'enquêter. D'où viennent leurs financements, mais pas une enquête policière, ça existe dans tous les pays. Une enquête parlementaire, ce qui est tout à fait différent. C'est pas qu'on est soupçonné d'avoir des sources financières cachères, comme on dit. C'est une enquête politique menée par une commission parlementaire politique. Et il y a d'ailleurs deux députés, tous les deux d'origine russe, qui parlent à peine hébreu, qui se bat, qui va être le président de cette commission spéciale, appartenant toutes deux au parti de Yvette Huberman, le ministre des Affaires étrangères. Ça va plus loin. La députée Ramin Zahavi, non seulement on lui a retiré une partie de ses droits en tant que parlementaire, parce qu'elle a été grand crime, elle a été dans la flottille. Elle venait symboliquement briser le blocus sur Gaza. Mais on débat ouvertement, bon, ça ne passera pas, mais c'est déjà un grand pas de débattre au Parlement si on ne va pas lui retirer, tout simplement, l'exclure du Parlement, voire lui reprendre la citoyenneté israélienne, lui prendre la citoyenneté israélienne. La citoyenneté, c'est pas quelque chose qu'on prend, c'est quelque chose qu'on a. Il n'y a que le régime fasciste, comme la France de Pétain, qui a pris repris la citoyenneté aux Juifs, par exemple. Et ça, on n'est plus du tout dans la démocratie, on est dans le fascisme. L'Union soviétique, aussi, avait enlevé la citoyenneté de certains proposants. Aucun pays démocratique ne l'a jamais fait. La citoyenneté, ça t'appartient. Point. Certainement, si tu es Ramin Zahavi, dont les parents, les grands-parents, les arrière-grands-parents vivaient dans ce pays, bien avant que l'idée même d'un État d'Israël ne soit envisagée. Mais ça va au-delà. Le collègue de Ramin Zahavi au Parlement, président du groupe parlementaire du Rassemblement National Démocratique, Jamal Zahalka me disait il y a quelques jours, on prenait une bière ensemble, il me dit, ça n'est jamais, je rase les murs au Parlement. Au Parlement, il a été élu. Il dit, non seulement j'ouvre la bouche, je me fais chahuter, on ne me laisse pas parler. Encore un signe des régimes pré-fascistes. Mais même dans le couloir, je me sens agressé. C'est pas qui a agressé qui reçoit des coups de poing. Il dit, personne ne me parle, on me regarde comme un pestiféré. Ça, c'est nouveau. Au contraire, Israël était fier d'avoir des députés arabes, et vous voyez, on est tous les mêmes, et chez nous, c'est la démocratie. On aimait fraterniser avec les Arabes, ça faisait bien, j'ai même un ami arabe. C'est fini. Autre aspect, et là c'est au niveau, cette fois-ci, de l'atmosphère, aussi de l'ambiance, c'est les pogroms. Des petits pogroms. À l'époque, en France, on appelait ça des ratonnages. Des groupes de jeunes en général qui s'attaquent à des Arabes dans la rue, qui vont casser des voitures qui appartiennent à des Arabes, qui vont casser des devantures de magasins, entre autres dans la ville de Safed, une ville très symbolique dans l'histoire de la Palestine, l'histoire des Juifs et des musulmans en Palestine, une ville historique, le cœur de la Kabbale. Ce courant de pensée juive du Moyen-Âge. Et bien, ça fait, le grand rabbin de la ville, a lancé une fatwa qui interdit de louer, de vendre ou de louer un appartement des Arabes. Ça fait, c'est une ville où il n'y a plus d'Arabes, puisque tous les Arabes ont été expulsés en 1948. Par contre, c'est une ville où on vient d'ouvrir, il y a quelques années, un institut universitaire, et beaucoup d'étudiants sont des étudiants arabes. Et donc, ils ont besoin de louer une chambre. Ils ont besoin de louer... Il n'y a pas de cité universitaire. Eh bien, le rabbin a ordonné, a montré, sur la base de texte, et vous savez qu'on peut faire lire au texte qu'on veut, qu'il est interdit de louer un appartement à un étudiant arabe, expliquant qu'il n'y a aucune raison que ça fait de vieille ville juive, dit-il, ce qui est faux, qu'il y ait trop d'arabes, ou qu'il y ait des arabes dans cette ville. On s'en est débarrassé en 48, c'est un moment qui revient. C'est un exemple, cette incitation par les autorités spirituelles, par des autorités spirituelles, et il y a quand même une opinion critique assez forte contre cela, en particulier à travers les médias, qui ont exigé du grand rabbinat officiel du pays qu'il se distancie, qu'il dénonce cette loi rabbinique, ce décret rabbinique des rabbins de Safed. Malgré toutes les pressions, le rabbinat a fait une déclaration en disant que on a mal interprété, vous savez ce genre de démentis qui n'en sont pas, on a mal interprété ce qu'ont dit les rabbins, c'est que de toute façon, le texte de la Torah est sacré et il est au-dessus des lois de l'État. Cette dégénérescence en termes institutionnels, en termes d'ambiance, en termes de discours, dont il suffit d'ouvrir le journal, vous avez des traductions en anglais, en français, tous les jours, on en a des exemples. Mais pour la comprendre, il faut revenir à Gaza. Gaza 2009, c'est le tournant. C'est le moment où Israël se lâche. Sidi Livni, qui était la ministre à l'époque, la ministre des Affaires étrangères, et qui est considérée comme Israël, en Israël comme une des politiciennes modérées, Sidi Livni avait dit, si vous vous souvenez, ici en France, on a montré au monde qu'on est capable de péter les plombs. C'était les mots qu'elle a utilisés. Parce qu'elle était interrogée par les journalistes, mais pourquoi cette violence à Gaza? Elle a dit, on a montré au monde qu'on est capable de péter des plombs. Et le pétage de plomb comme stratégie, c'est aujourd'hui la politique israélienne. Plus vite. Parler du droit international, parler même de pression internationale, c'est passé. On fait ce qu'on veut. On est le voyou du quartier. Et allez essayer de nous empêcher. Et ce que disait Sidi Livni, et ce qu'a dit le massacre de Gaza, c'est essayez pas de nous arrêter. Essayez pas de faire pression sur nous. C'est un message à Obama. Les Gazaouis, c'était des victimes collatérales d'un discours politique orienté non pas vers eux, mais vers Obama, nouveau président juste élu, même pas encore en poste. Si tu as la malheureuse idée de vouloir nous asseoir à la table des négociations, de vouloir nous imposer le gel des colonies, ce qu'il a tenté de faire, mais il s'est très vite calmé. Si tu as l'intention de mettre une quelconque pression, toi ou n'importe qui à travers le monde, sache qu'on est capable de casser la barre. On est incontrôlable. Alors, essaye pas de nous imposer, ou n'essayez pas, ni l'ONU, ni les États-Unis, ni même les États-Unis, ni personne, de nous imposer une politique qui n'est pas celle que nous choisissons. Ce qu'il y a de grave, en termes de société, c'est que le crime de Gaza, le massacre de Gaza, la folie de Gaza, a été soutenu par l'ensemble de la classe politique israélienne, droite et gauche confondues.